Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle saison de La Lorgnette. Je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer ce magazine d'actualité et de société tous les jeudis à 17h sur Studio ZEF. Je suis également ravi d'accueillir de nouveaux ou nouvelles auditeuristes sur le Vendômois qui peuvent nous écouter sur le 91.7. Bienvenue à vous tous. En cette rentrée pour cette émission et alors que les forums des associations se sont tenus dans toutes les villes et villages de France lors de la première quinzaine de septembre, nous nous intéressons au tissu associatif départemental. Comment se porte-t-il? Quelles sont ses difficultés, ses points forts? Les bénévoles sont-ils toujours aussi impliqués? La Ligue de l'enseignement du Loir-et-Cher a mené une grande enquête à ce sujet. On fait le point sur les associations du 41 aujourd'hui. Dans la lorgnette. Bienvenue à tous et à toutes. Et bonjour à mes deux invités donc, qui m'accompagnent pour cette première émission de rentrée donc, de La Lorgnette. Benoît Trulla, chargé d'études et vie associative à la Ligue de l'enseignement. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez coordonné cette grande étude que vous avez fait paraître là au début du mois de septembre, c'est ça?
Oui, c'est bien ça, oui.
Et puis à vos côtés, Jean-Claude Toutain, président donc de plusieurs associations. Donc je voulais une application concrète des grandes études, des grands points un peu théoriques de l'étude dont on va parler. Donc Jean-Claude Toutain, vous êtes président de représentant de plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez nous les déposer?
Bonjour à tous. Donc moi je suis Jean-Claude Toutain. Je suis sur la commune de Saint-Laurent-Nouan dans le 41. Et donc je suis président du club de natation, le CSL Natation. Je suis président d'une compagnie de théâtre professionnelle, la compagnie Toute Direction, donc à Saint-Laurent-Nouan. Et je suis président donc, de Arts et Loisirs à Saint-Laurent-Nouan.
On va revoir donc tout ça au fur et à mesure de cette émission. Comme chaque semaine dans la lorgnette, à la fin, vous pourrez retrouver le journal de bord d'un élu local. Avant ça, donc, on va parler de cette grande étude qui est accessible. On remettra l'endroit où trouver cette étude pour celles et ceux que ça intéresse par la Ligue de l'enseignement. Benoît, est-ce qu'on peut rappeler comment est née l'initiative de porter cette grande étude sur les associations locales et quelle a été la méthodologie appliquée?
Alors peut-être rappeler rapidement ce qu'est la Ligue de l'enseignement,
oui,
parce que c'est
parti
de là.
Absolument faire ça.
Donc la Ligue de l'enseignement de Loir-et-Cher, en l'occurrence, c'est un mouvement d'éducation populaire qui est complémentaire de l'école publique, avec une grande variété d'actions qui touchent à la culture, à l'enseignement, à l'engagement des jeunes, au secteur de l'animation, mais aussi à la vie associative. Et donc en tant que fédération d'associations, la Ligue de l'enseignement a toujours accompagné les associations dans les problématiques qu'elles avaient au quotidien. Et ça fait plusieurs années d'ailleurs que son centre de ressources à la vie associative est reconnu par les services publics, tant pour l'accompagnement des bénévoles que pour la formation qui sont proposées aux bénévoles. Donc c'est aussi dans l'accompagnement des assos que la Ligue de l'enseignement a rejoint un réseau qui s'est installé en 2021 qui s'appelle le réseau Guide Asso, qu'elle co-anime avec les services de l'État. Et ce réseau a pour but de fluidifier l'aide aux associations dans le département. Donc l'étude, elle est venue de ce rôle d'accompagnement des associations. On essaye d'accompagner au mieux les associations. Pour mieux les accompagner, il faut les connaître et donc les étudier. Et c'est la raison pour laquelle la Ligue de l'enseignement a été à l'initiative donc, de cette étude. C'était courant 2023, donc c'est les grands objectifs de l'étude ont été construits en juin 2023 et donc la publication des résultats se fait actuellement. Donc c'est une étude au long cours.
On rappelle aussi que la Ligue de l'enseignement est elle-même une association.
Tout à fait, ouais. Association loi de 1901, tout comme les autres.
Et donc quelle a été la méthodologie appliquée? Donc moi je me souviens en tant que représentant, en tant qu'un des salariés de Studio ZEF, j'ai reçu ce questionnaire à remplir.
Ah oui, effectivement, le questionnaire, ça a été l'un des grands, des grandes sources de contenu hein, de l'étude,
mais ce n'est
pas seulement. Donc, premièrement, juste repréciser les choses. Donc, la Ligue de l'enseignement a lancé l'étude, mais elle ne l'a pas fait toute seule. Donc, il y a eu un comité de pilotage hein, qui a été organisé autour de toutes les structures un peu au niveau départemental qui s'intéressent à la question associative. Donc on pense conseil départemental, on pense au service de l'État au niveau du département, à la Caisse des dépôts, au mouvement associatif, à la Chambre régionale aussi de l'économie sociale et solidaire, etc. Il y a eu aussi l'Observatoire de l'économie des territoires, donc, qui avait mené la précédente étude sur les associations en 2010.
Okay, qui remontait donc, à déjà donc
ouais,
une grosse
fait,
dizaine d'années.
C'est okay. Exactement. Et qui ont permis d'avoir un regard aussi critique sur à la fois la méthode et sur l'analyse qui a été faite. Donc ça, ceci étant dit, on s'est appuyé sur trois sources. Donc la première, vous l'avez mentionné, c'est le questionnaire. Donc c'est entre novembre et décembre de 2023, il y a eu la diffusion, alors, aussi massive que possible, du questionnaire à travers tous les réseaux qu'on a pu mobiliser.
Ouais, solliciter.
Donc le principal étant la commune, parce que la commune, c'est le point d'ancrage de toutes les associations sur les territoires.
Et elles ça, y sont référencées, elles ont un siège social qui est dans les communes dans lesquelles elles sont inscrites. Donc effectivement, vous avez balancé le lien du questionnaire aux différentes...
C'est ça, c'était le meilleur moyen d'accoster des associations qu'on ne connaissait pas du tout, qui étaient hors de notre réseau.
Notamment donc, les associations sportives, Jean-Claude, voilà, on y reviendra aussi.
Exactement. Donc la deuxième source de données, c'est toutes les données publiques. Lorsqu'une association se crée, lorsqu'une association fait une déclaration en préfecture auprès des services de l'URSSAF, par exemple, il y a un certain nombre de données qui sont collectées, qui sont accessibles au public, donc à travers donc, le site, c'est datagouv.fr. Et donc j'ai pu récolter un certain nombre de données. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a l'adresse donc, du siège social, on a le secteur d'activité, on a le nombre d'associations aussi, supposées actives, on a les associations qui, la date de création des associations, de dissolution quand c'est le cas. Donc beaucoup de données qui nous ont permis aussi d'avoir un paysage, enfin de brosser un paysage de la vie associative dans le Loir-et-Cher.
Qui soit le plus représentatif, et on va rentrer dans le concret juste après. Justement, cette question de la représentativité, elle est très bien expliquée dans le rapport donc, que vous publiez. Vous l'avez dit aussi là dans la méthodologie, donc il y a beaucoup d'associations qui se créent, mais pas forcément qui s'arrêtent. Il peut y avoir des associations qui sont actives, comme celles comme Studio Zef, La Ligue ou les associations que préside Jean-Claude. Il y en a qui sont en sommeil, qui n'ont plus d'activité, mais qui sont toujours référencées en tant que, voilà, qui ont un numéro de ciré, un numéro de sirène, etc. Donc comment faire le tri dans des associations qui pourraient apparaître actives et qui ne l'étaient plus?
Donc c'est justement très difficile de faire le tri. Et c'est d'ailleurs ce qui nous limite un petit peu dans notre capacité à déterminer le nombre d'associations exactes sur un territoire. On est sur une fourchette qui est assez large, entre 6500 et 7500 associations actives. C'est difficile de faire mieux. Autrement, il faudrait faire un sondage donc très très large, avec une diffusion là, pour le coup massive sur un temps très important. On n'est pas en capacité de le faire, donc pour déterminer ce nom, on a plusieurs méthodes. Donc, on emprunte des méthodes, notamment des études nationales. Donc, il y a une référence, une pointure, une sociologue qui est référente sur les études nationales, c'est Viviane Tchernonog. Mm-hmm. C'est elle qui a mis en place cette méthodologie un peu pour l'étude des associations. Et donc, elle nous donne des clés, justement, pour permettre d'avoir une fourchette. Alors, qui est inexact, mais qui nous rapproche quand même de la réalité. Sachant que sur le département, quand on regarde le répertoire national des associations, il y a environ 8800 associations actives, donc bien plus que le nombre que je vous ai indiqué. Donc on sait pertinemment que sur ces associations, il y en a qui ne vont pas au bout de leur démarche. Donc l'association s'arrête, il n'y a plus de bénévoles pour la porter et elle est juste laissée telle qu'elle. Alors, parfois, elle peut être récupérée des années après, mais la plupart du temps, elle est juste laissée de côté. Et donc, en estimant justement Ce nombre d'associations en fonction de la dernière année de déclaration, en fonction de plein de critères, de plein d'indicateurs qui vont nous montrer à peu près l'activité des associations. On peut donc estimer les associations entre 6500 et 7500.
Et donc un vrai travail de fourmi, on l'a bien compris, pour justement essayer de revenir à une représentativité qui soit concrète et réelle. On va rentrer donc dans le vif du sujet avec ces chiffres qui émergent de cette étude. On va rapidement parler, même s'il n'y a pas trop de suspense, j'imagine que tous ceux qui ont un pied ou même qui sont simplement adhérents dans des associations sans en connaître leur fonctionnement ne seront pas surpris. Le secteur le plus représenté dans les associations en Loire-et-Cher, mais je crois que c'est valable à l'échelle nationale, c'est le sport et les associations sportives et de plein air.
C'est ça, ouais. Alors, sport et activité de plein air, ça comprend notamment les associations de chasse et de pêche, donc ça va, c'est général, c'est une classification qui est adoptée au niveau national, donc on a juste répété cette classification au niveau du département, ce qui nous permet d'estimer environ 28% le nombre d'associations de cette catégorie, donc qui est assez loin devant quand même deux autres secteurs que sont la culture et loisirs et vie sociale.
À peu près à égalité, 19% pour la culture et 21% pour les loisirs et vie sociale. Deux associations qui sont représentées ici par Jean-Claude. Oui, et donc effectivement, il reste presque les miettes pour plein d'autres secteurs. Ces trois secteurs-là d'activité représentent 60% au final, plus ou moins de l'activité associative. Et donc, on peut quand même développer les autres secteurs. Donc, le développement local et économique, l'humanitaire, la solidarité, la santé et l'éducation. Je jette ça rapidement pour qu'on se figure un petit peu le paysage associatif. Donc Jean-Claude, vous êtes bien conscient que le sport est très bien représenté, le nombre d'adhérents dans les associations sportives le montre, c'est ici que la principale activité associative se porte.
Oui, je suis assez d'accord avec ça, hein. On le voit bien nous sur notre commune, hein. On a beaucoup de clubs sportifs, on a beaucoup de jeunes qui font du sport, des jeunes et des adultes, aussi bien en compétition qu'en loisirs, et c'est vrai que... sur les associations sportives qu'on peut toucher autour de chez nous, les bénévoles sont bien présents, les bureaux, donc c'est bien structuré, il y a des structures, hein, je vois bien chez nous. C'est certainement plus difficile au niveau de la culture, hein. Donc ça touche déjà beaucoup moins, parce que le sport ça touche beaucoup d'enfants, il y a quand même beaucoup d'enfants derrière, donc les parents ont tendance quand même à suivre leurs enfants, donc on a plus de facilité à retrouver ces mêmes parents dans un fonctionnement, quoi. En tant que bénévole, en tant que... des fois, c'est juste un coup de main. Mais c'est aussi comme ça, le coup de main fait qu'on devient bénévole et qu'on devient un peu plus... Et puis un jour, on se retrouve président, quoi.
Oui, il n'y a pas que dans un club de sport, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres associations. Il y a la licence. Et puis, des parents peuvent devenir adhérents aussi de l'association pour filer un coup de main, être présent dans l'encadrement, accompagner conduire les voitures pour faire les déplacements dans les compétitions, etc.
S'il n'y a pas tout ce tissu, hein, parce qu'un président, un trésorier, un secrétaire, un conseil d'administration avec un certain nombre de personnes... Bon, ça, c'est très important, hein, c'est la structure. Et après, il nous faut forcément des parents, des forces vives, comme on dit, hein, qui vont aller faire les petites choses, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais bon, quand c'est fait comme ça, là, c'est fait comme ça. Le fait de transporter les enfants ou des fois même des adultes, donc ça, c'est important. Donc, il faut avoir des moyens aussi de véhiculer. Donc, il faut les véhicules, il y a aussi une certaine confiance qui doit s'installer parce que mettre des enfants qui ne sont pas forcément de la même famille, est-ce que les parents vont être d'accord? Donc on met quand même tout ça au milieu de tout.
Un cercle de
et on se retrouve à des rendez-vous de départ de compétition ludique ou plus. Et puis c'est comme ça que ça se met en place. Et c'est ces mêmes personnes-là qu'on retrouve des fois un an ou deux ans après engagées davantage dans le fonctionnement d'un club sportif.
Si je peux me permettre, c'est un constat qu'on a pu faire à travers l'étude, le fait que les associations sportives ont des conseils d'administration beaucoup plus étoffés que les associations du secteur culturel, donc avec souvent plus de 10 personnes donc chargées justement de l'administration de l'association, alors que dans les secteurs de la culture, on est souvent moins de 5 administrateurs, donc beaucoup plus fragiles, et on sent une différence entre ces deux secteurs.
Il faut aller chercher. Moi, je sais que là, on parle du sport, mais quand je parle d'arrêt loisir, où là, moi, je me retrouve. Parce que moi, j'ai été justement, j'ai repris Arrêt loisir. C'est une association quand même qui a 50 ans, hein, la fête des 50 ans. Donc, qui part bah, forcément de pas grand-chose. Au départ, voilà, il y a quelques sections. C'est Arrêt loisir, c'est des sections et c'est géré par un bureau et un conseil d'administration.
Alors on peut rappeler rapidement pour situer, c'est une association généraliste qui va proposer du dessin, des jeux de société.
Arrêt loisir, c'est aujourd'hui 21 sections. C'est un peu plus de 400 adhérents. Donc ça va aussi bien Club Tarot, la section Tarot, de la photo, on peut y faire, on peut apprendre, il y a des ateliers théâtre, il y a le yoga, il y a la partie danse, où il y a ce qu'on appelle le mandanja chez nous, donc il y a aussi bien la poterie, enfin, il y a plein d'ateliers différents, le vitrail, etc. Donc il y a même la section cinéma, donc on fait venir le cinéma chez nous et on gère, ce qui fait que c'est assez varié. Ouais. Donc, on a nos propres locaux, hein, on a nos salles, on a les moyens à Saint-Laurent-Nouan quand même, avec le CIGM, le Centre culturel Jean Moulin, où se passe la plupart des activités, plus sur les extérieurs, au niveau des gymnases et autres, pour les activités un peu plus sportives, comme le mandan jazz et le yoga. Mais c'est vrai que derrière tout ça, moi, quand j'ai repris, bon, il y avait du monde, mais aujourd'hui, on a encore plus de monde, parce qu'on a un conseil d'administration agrandi, on est 28 dans le conseil d'administration.
Ouais, donc
Chaque représentant de section est dans le conseil d'administration, une personne minimum. Donc vous voyez déjà 21 sections, ça fait minimum 21 personnes, plus le bureau, parce que moi je suis président, donc je ne suis plus responsable d'une section. J'étais responsable de la section cinéma, c'est quelqu'un d'autre, on ne peut pas être président.
Ouais, bien sûr.
Voilà, parce que sinon on a tendance à dire qu'on va privilégier plus là que là. Donc,
je comprends bien. Et on voit avec cette association, alors qui est peut-être un cas particulier, Benoît, mais qu'elle est complètement transdisciplinaire, là où il va y avoir des associations de danse, de poterie, de modern jazz, etc. Là, on va avoir, donc évidemment, avec plusieurs centaines d'adhérents, quelque chose de très général, regroupé en une seule association. Donc, ça rend parfois aussi l'étude et la lecture qui sont plus complexes et plus à affiner. Voilà. Je voulais revenir sur les spécificités locales, notamment en loisirs et sport aussi. Puisque je lisais dans l'étude que le Loir-et-Cher se classait 20e sur une centaine de départements français au niveau loisirs et vie sociale, puisque la chasse et la pêche sont mieux représentées par rapport à la moyenne nationale, par rapport à d'autres départements. Donc ça, j'imagine que c'est la Sologne qui joue sur le nombre d'associations de ce type de sport.
Oui, effectivement, déjà, donc sur l'ensemble du département, on est autour de 5-6% d'associations de chasse et de pêche, alors qu'au niveau national, on est plutôt autour de 3%, donc il y a quand même une sacrée différence. Et cette différence est encore plus marquée en Sologne, avec pratiquement, je crois que c'est 8% d'associations de ce secteur qui sont enregistrées en Sologne. Donc c'est vrai que ça constitue quand même une présence assez massive sur le département. Mais comme dit en premier, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a des départements qui sont encore plus étoffés que ça. Et on peut le comprendre par rapport à la morphologie
géographie du département. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités locales qui sont remontées de cette étude marquante?
Alors, en spécificité locale, on peut noter dans les associations employeuses, plutôt la présence d'un grand nombre de groupements d'employeurs sur le département, trois fois plus qu'au niveau national, et notamment sur le secteur agricole. C'est un secteur qui
La ruralité aussi du département joue beaucoup.
Ouais, de beaucoup développer ces groupements d'employeurs associatifs, il faut bien le préciser, pour organiser un petit peu tout l'emploi des secteurs ruraux. Autre spécificité qui est source d'inquiétude un petit peu, on va dire, mais ça peut être un bon sujet à aborder, c'est le nombre de dissolutions dans le département qui est beaucoup plus important qu'au niveau national. On a deux fois plus de dissolutions d'associations dans le département qu'au niveau national. Alors, ça reste très en dessous du nombre de créations, donc je vais parler en chiffres. Il y a à peu près 300 associations créées chaque année dans le département. Il y a environ une centaine de dissolutions par an. Alors, on peut croire comme ça que finalement, il y a beaucoup plus de créations et donc on est dans une dynamique très positive. Comme je vous l'ai précisé au début, c'est trompeur parce que toutes les associations ne font pas la démarche. Et on peut supposer même que il y a une minorité d'associations qui font cette démarche de dissolution.
Est-ce que c'est justement, c'est pas plus sain de savoir que les gens font la démarche de dissoudre l'association ici en Loire-et-Cher plus que dans d'autres départements par rapport ou à d'autres zones, d'autres territoires, finalement laisser courir le sommeil de l'association fait que des résultats sur une étude sont plus compliqués à lire par exemple?
Alors, ce serait très positif de le dire de ce point de vue. Effectivement, il y a peut-être. C'est peut-être qu'il y a un petit...
Plus de responsabilité loire-et-chérienne.
Administrative. mais quand on compare même dans le Loir-et-Cher avec l'étude de 2010, par exemple, on constate quand même qu'il y a une augmentation.
Okay.
Que là où en 2010, il y avait une dissolution pour 4 créations, on en est à 1 pour 3 actuellement. Là où au niveau national, donc on est à 1 pour 5, donc 1 pour 3 dans le département, et c'est surtout dans le sud du département, donc dans l'arrondissement de Romorantin, où sur certains territoires, on s'approche 1 pour 2.
Okay.
Donc avec là l'intuition, donc on peut pas le prouver, mais on en a quand même l'intime conviction qu'il y a une baisse du nombre d'associations sur ces territoires. Et qui est corrélé avec la baisse de la population. Mmh. Donc, ce n'est pas une surprise non plus, mais de pouvoir le mettre en avant, ça montre quand même quelque chose de concret.
Mmh. Un petit point, je voulais réagir, Jean-Claude.
Sur le fait qu'il y ait des associations qui sont en sommeil, donc moi j'en connais, hein, qu'on n'a pas, on se dit, bon, si des fois ça veut repartir. Mmh. Parce que des fois, c'est pas le fait de pas avoir de bénévoles, mais c'est surtout d'avoir des fois le salarié, tout simplement, pour activer l'association. Bah, par exemple, moi, la Mécale Batterie Fanfare à Saint-Laurent, tant qu'on a eu un prof qui assurait les cours pour donner des cours de musique avec des instruments, la Batterie Fanfare fonctionnait. La Mécale Batterie Fanfare de Saint-Laurent fonctionnait. Aujourd'hui, disons qu'elle est en sommeil, il n'y a plus d'école. Hein, donc les musiciens qui sont restés ont basculé sur l'école de musique du Grand Chambord ou sont partis sur la commune d'à côté, donc à Léranval pour continuer leurs activités ou sur Vineuil pour d'autres. Mais donc la Batterie Fanfare n'a plus ce rôle-là. On continue à faire quelques activités comme des concerts, comme on va faire en mai 2025 avec le Festival de l'Ardoux. Et c'est vrai que c'est quand même une association qui est toujours là, mais qui est plutôt en sommeil, quoi. L'activité est en sommeil, quoi, malheureusement. Brother, call a girl a bitch or a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring breath to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on right cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me, bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes. Said,
who you calling a bitch?
You and I,
you and I, T.Y.
young lady. And real bad girls are the silent type. Yeah. Ain't none of this worth getting your face sliced. Cause that's what happened to your homegirl, right? Walking with no she got to wear that for life. Who you calling a bitch?
Rapidement, on reparle évidemment donc du point qui a lancé l'initiative, qui est le Covid et notamment sur les associations sportives. Est-ce que ce sont elles qui ont le plus souffert? Dans mon esprit, c'était plutôt elles qui ont souffert du Covid, dans la mesure où les associations sportives nécessitent souvent du contact ou alors concernent des sports collectifs. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les associations les plus inspectées? Est-ce que c'est le sport, donc, comme je le suppose, ou est-ce que ça a été très général?
Il était difficile de ressortir un secteur d'activité okay. plus impacté qu'un autre. Tous les secteurs ont été vraiment impactés, hein, notamment que ce soit la culture, le sport, les loisirs. Donc il n'y avait plus la possibilité de se regrouper. Pour certains, la perte de bénévoles, la perte de personnes qui étaient impliquées dans l'association. Et donc ça, il y a... À la rigueur, le secteur humanitaire, social, santé qui s'en tire mieux, mais c'est pas forcément un signe positif. C'est parce que aussi ils ont eu davantage de public et donc davantage de besoins aussi à couvrir. Donc c'est aussi pour ça. Ce qu'on a pu étudier à travers l'étude, donc on sait que c'est 95% des associations qui ont été impactées au moment de la crise sanitaire. Mmh. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir, là, on était fin 2023, grosso modo, un peu plus d'un an après la fin vraiment des derniers effets de la crise sanitaire, et est-ce que les associations ressentaient encore justement le poids un peu de cette crise sur leur activité. Et il y avait un sentiment un peu général que les associations n'avaient pas le moral, n'avaient pas retrouvé justement cette activité d'avant la crise sanitaire. Donc on a été rassurés sur certains aspects, mais on constate quand même qu'il y a un tiers des associations qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. On en a beaucoup sur le monde sportif, là où il y a des adhérents en fait. Donc là où il y a un besoin d'adhérents, on observe qu'il y a eu une baisse du nombre d'adhérents, donc forcément pendant la crise sanitaire, mais que cette baisse s'est prolongée sur les années à venir.
Après la pluie vient le beau temps, Jean-Claude. On parlait avant l'émission des JO et de l'effet a priori bénéfique que pouvait avoir cette grande manifestation sur l'adhésion au club sportif.
À partir du moment où on a des Jeux Olympiques, de toute façon c'est tous les 4 ans, donc on sait très bien, dans beaucoup de sports, donc les sports les plus... représentés, donc comme le foot, le rugby, enfin la natation. Moi, je parle de la natation. C'est vrai que là, on a quelques champions. On n'a pas 10 champions au niveau quand on est présent aux Jeux Olympiques. On n'a pas 50 champions du monde, mais on en a surtout un qui a été remarquable sur les JO à Paris. Léon Marchand. Nous, on le connaissait dans le monde de la natation depuis bien longtemps, mais là, tout le monde le connaît maintenant. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de la natation pour comprendre. La crise Covid, parce qu'on parlait de perte d'adhérents, oui, c'est sûr que nous, on a perdu beaucoup d'adhérents sur 2 années. On a eu des fermetures de piscines.
Oui, surtout en piscine,
des raisons économiques. Donc, on a failli s'arrêter, tout simplement. Le club a failli s'arrêter. Le salarié, on a pu, avec les choses qui ont été mises en place, on a pu le mettre au chômage, le chômage partiel, etc. Donc, on a eu des aides de l'État qui fait qu'on a pu maintenir son salaire. Sans que ça fasse trop de dégâts, parce que les salariés, ils ont besoin aussi de vivre. Donc on peut réduire beaucoup de choses, mais à un moment ou à l'autre, les salaires, ça reste quand même quelque chose d'important. Donc les charges ont été réduites, donc toutes ces choses ont fait qu'on a pu heureusement repartir. Donc quand même avec beaucoup de difficultés. Au sein des bénévoles, on n'a perdu personne, on est resté structuré, ça a été important. On a pu maintenir des activités à un moment ou à l'autre en extérieur, parce qu'on est lié, on a une convention avec le club de triathlon à Saint-Laurent. Donc nos nageurs se sont mis à courir et à faire du vélo. Donc c'était bien. En extérieur, à un moment ou à l'autre, on a pu de nouveau... Donc ça a permis de relancer un petit peu l'activité. Il y a des communes comme Beaugency qui nous ont ouvert leurs portes un peu plus tôt au niveau piscine. Hein. Saint-Laurent s'était fermé, Sainte-Aquatique est resté fermé alors que nous avions un bassin extérieur. C'est pour vous dire les difficultés qu'on a eues sur Saint-Laurent-Nouan avec la communauté de communes du Grand Chambord. Mais bon, on est content aujourd'hui de se retrouver derrière le micro pour parler de la natation et de parler des associations parce qu'on va quand même beaucoup mieux. C'est vrai que moi, quand je reprends Art et Loisirs, c'est 2021. Hein, donc je sais très bien qu'on est mal. Hein, je sais qu'il n'y a plus grand monde dans le bureau. Enfin, les gens sont là, mais
oui,
comme ils sont...
Il fallait réimpulser une dynamique.
Voilà, mais les gens sont vaccinés, ils ne sont pas vaccinés. Il y a encore les lois, il y a encore tout un tas de décrets, de choses qui font qu'on ne peut pas forcément se voir. On peut se voir, mais bon, il y a tout un tas de protocoles, ce qui fait que dans les sections, c'est compliqué. Il y a beaucoup de tensions dans les sections avec certaines personnes. Vous savez, aujourd'hui, entre ceux qui étaient vaccinés et ceux qui ne l'étaient pas, heureusement qu'il n'y avait pas, c'était pas la guerre, hein, parce qu'il y a des gens qui auraient tiré sur d'autres personnes. Hein. Mais donc nous, il a fallu qu'on vive avec tout ça. Et quand on reprend Arrêt Loisirs, où les sections ont perdu, on a perdu plus de 100 adhérents. Hein. Donc moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc je crois beaucoup au monde associatif. Je crois beaucoup à ce noyau qui fait vivre, qui dynamise nos communes, hein, même les petites communes. Nous, à Saint-Laurent, donc le maire de Saint-Laurent va certainement m'entendre. Je sais qu'on a beaucoup de soutien, on a beaucoup de moyens, aussi bien matériels que salles que financiers. Donc nous, on a cette chance-là. Donc on le met à disposition des habitants de Saint-Laurent et des habitants qui sont autour de notre commune, hein, si bien pour les enfants que pour les adultes. Parce que le sport, bah, il est ouvert à tout le monde, tous les enfants de Saint-Laurent et autour, donc à des tarifs identiques, on ne fait pas de différence. Donc c'est vrai que cette période 2020, 2021, 2022, on est vraiment reparti, nous, 2023, 2024, c'est vraiment la bonne saison. C'est la meilleure saison depuis 2018 chez nous, au niveau sport et au niveau associatif, on est bien reparti aussi. Ouais.
Je voudrais qu'on avance, je savais que cette émission serait trop courte pour le nombre de questions que j'avais à poser. On va parler des adhérents, du nombre d'adhérents et de la gouvernance qui est l'ultime étape dans la gestion d'une association. Je reviens sur donc, cette étude et ces données que vous avez mises à disposition. Donc, 75% des associations ont moins de 100 adhérents, alors ce qui n'est pas le cas des associations qui sont représentées ici par Jean-Claude, mais du coup, et 55% ont moins de 50 adhérents, donc on est vraiment sur des communautés assez restreintes au final, malgré tout. Qui sont, mais Jean-Claude nous l'a déjà un peu expliqué, quelles sont les associations qui ont plus de 100 adhérents? Ce sont des associations sportives et urbaines, ou finalement l'urbanicité ou la ruralité n'ont pas trop de rapport avec le nombre d'adhérents?
Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que sur la ruralité, hein, il est difficile d'avoir des structures avec beaucoup d'adhérents, à condition, enfin, d'avoir des sections. Enfin, c'est vrai qu'avec des associations omnisports, avec plusieurs sections ou transdisciplinaires, c'est là où on retrouve les grosses associations avec de multiples bénévoles. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que dans les associations employeuses, par exemple, c'est aussi là qu'on retrouve les associations avec le plus de bénévoles. Donc pourquoi ? Souvent parce que c'est du bénévolat ponctuel qui est demandé sur certaines missions.
La charge de travail étant assurée par les salariés, les bénévoles ont plus envie et de temps d'investir sur ce qu'ils ont envie d'investir.
Il y a une coordination possible par un salarié. Et donc c'est vrai que sur certains événements fonctionnent comme ça, avec de multiples bénévoles, mais qui vont intervenir que ponctuellement. Donc c'est vrai que le bénévolat en tant que tel aussi est difficile à définir, hein, parce qu'entre la personne qui va s'engager dans les instances...
C'est une des remarques que vous pointez dans le rapport. La définition même du statut de bénévole est très difficile à cerner.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est la personne qui va s'investir dans les instances, donc qui va être sur un investissement pratiquement quotidien dans l'association, et la personne qui va intervenir ponctuellement dans le cadre d'un festival, par exemple. Un festival requiert énormément de bénévolat. Et donc là, des personnes vont intervenir un ou deux jours dans le cadre de ce festival. Donc le bénévolat a vraiment un éventail très, très étendu d'engagement, en tout cas, des personnes qui souhaitent le mener.
Et effectivement, un bénévole n'est pas un adhérent et forcément bénévole. Un bénévole n'est pas forcément adhérent. Déjà, c'est un des critères pour définir le bénévole. Je me trompe.
C'est un des critères, mais un adhérent ne va pas forcément avoir non plus d'activité bénévole. Mm-hmm. Donc on peut prendre dans les clubs de sport. Y a les adhérents, ils vont prendre leur licence, ils vont aller à leur entraînement, éventuellement en compétition.
Leur activité,
et c'est tout ce qu'ils vont...
Ne pas forcément s'investir dans le tournoi ou la soirée paella ou couscous.
Il y a ceux qui consomment, hein, donc on a besoin de ceux qui consomment, puis on a besoin de ceux qui vont être consommateurs et en même temps qui vont donner un coup de main quand on fait une manifestation. Ou quand on fait un déplacement sportif, on a besoin aussi à un moment ou à un autre. Des fois, on a aussi des sportifs qui sont au sein des bénévoles. On a des compétiteurs qui sont dans le fonctionnement bénévole. Hein. Donc on a des deux, quoi. Mais on a aussi beaucoup, et ça fait partie du jeu, hein. On a des gens qui sont là, ils payent une cotisation, donc ils viennent faire leur activité. Hein. Et sortis de ça, ils rentrent chez eux, hein. Mais ça fait partie du rôle. On a aussi besoin des cotisations, parce que quand on a des salariés, la balance se fait aussi avec la partie cotisation, il y a la partie licence et la partie cotisation. Donc si on n'a pas un certain nombre de licenciés, c'est pour ça que souvent les clubs sportifs, hein, surtout les sports collectifs, il y a beaucoup de monde.
J'ai une petite définition de ce qu'est un bénévole. Ça peut permettre justement de bien se représenter ça. Et bénévole, toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. La gestion de l'association devant être désintéressée. Les dirigeants sont, sauf exception, des bénévoles à part entière.
Oui, c'est exactement ça.
Et ben voilà, on va rester là-dessus sur la définition du bénévole. Il faut qu'on avance. Malheureusement, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je voulais quand même parler aussi de la gouvernance, qui est une des sujets majeurs de l'étude. Qu'est-ce que vous pouvez faire remonter de cette étude au niveau des gouvernances des associations, des conseils d'administration?
Alors, déjà, on constate quand même globalement qu'il y a une stabilité dans les conseils d'administration, la crise sanitaire, comme vous le témoignez aussi tout à l'heure, la crise sanitaire n'a pas forcément eu d'impact sur le nombre d'administrateurs, en tout cas dans les associations, et globalement, ça s'est stabilisé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le hic, c'est que on constate un vieillissement des bénévoles et notamment de ceux qui sont dans les instances et une difficulté de renouvellement des instances, donc de personnes qui vont aller dans l'association et qui vont vouloir s'investir vraiment dans l'association et prendre des responsabilités. Ça, on a énormément de retours d'associations qui évoquent, qui expriment ces difficultés de renouvellement. Mais voilà ce que je peux dire là-dessus. Ouais. Une chose donnée intéressante aussi, et je me disais bien que c'était important de le dire, c'est qu'on constate aussi qu'il y a une certaine inversion, il y a une tendance de fond à une féminisation des instances. Donc quand on prend en compte les associations les plus anciennes, on a une majorité d'hommes encore dans les instances. Et globalement, on a 55% d'hommes, 45% de femmes. Mais quand on prend les associations les plus récentes, on constate qu'il y a une majorité qui est assez nette de femmes au sein des instances. Donc, on le voit aussi sur les études nationales, il y a une tendance de fond là-dessus, avec qui devrait se poursuivre justement avec une inversion des genres, en tout cas dans la gouvernance des associations.
On va toutes les semaines dans la lorgnette, on vous propose une recommandation, un podcast, une émission, un documentaire lié au sujet qui nous intéresse ce jour. Aujourd'hui, je vous propose un petit extrait d'une émission de Mediapart.
On embauche beaucoup de jeunes dans le secteur associatif. Et c'est aussi ce qui attire, c'est un secteur dans lequel on peut commencer avec moins d'expérience. Bon, ça dépend des associations, il y a toujours une barrière d'entrée qui est coûteuse. Mais on donne leur chance en tant que cadre, que responsable de projet à des gens qui sont assez jeunes et qui sont assez naïfs vis-à-vis du travail et du monde du travail. que ce soit dans le monde associatif ou ailleurs. Donc ça, à mon avis, c'est une des raisons de cette désillusion, c'est que c'est aussi la jeunesse des recrutements et puis le niveau de responsabilité auquel on envoie des gens qui sont très jeunes. Et la deuxième, c'est que c'est vrai qu'on entretient une espèce de côté, un tutoiement très facile dans les associations, une proximité, y compris physique, dans les bureaux, avec la direction. Ils sont pas au cinquième étage, ils sont au milieu de l'open space avec tout le monde, et on a l'impression que ça va être sympa, qu'on va prendre des cafés, et que s'il y a un problème, on va se taper dans le dos pour le résoudre. Et d'où aussi la difficulté. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que les premiers conflits qu'on essayait de résoudre en tant que syndicat, on se disait, en fait, on va y aller de manière constructive, c'est-à-dire qu'on va essayer d'ouvrir un dialogue avec l'employeur. Mais en fait, à partir du moment où on pointait un problème, il y avait une crispation des deux côtés. D'un côté, l'employeur qui d'un coup se dit « D'accord, vous me considérez comme un employeur, d'accord, je vais être un patron. » Et du coup, en face, des salariés qui se disent « Ah, mais en fait, c'est pas du tout aussi sympa que je pensais, la résolution va être moins facile. » Donc, ils vont aussi se braquer. Et d'un coup, une position qui devient conflictuelle en quelques jours, quelques heures, alors qu'on avait l'impression qu'on était à deux doigts de trouver une solution. Et ça rend aussi les conflits dans le monde associatif très difficiles à résoudre.
C'est vrai que c'est la particularité des associations, enfin des entreprises associatives, c'est qu'en fait, elles appartiennent pas à un capitaliste. Enfin, il n'y a pas de capital. L'association, elle appartient finalement aux bénévoles qui dirigent l'association, donc aux membres du bureau et du conseil d'administration. Et ces bénévoles qui sont finalement les employeurs des salariés, c'est des gens qui ne sont pas venus là pour être employeurs. Ils sont venus là pour porter un projet associatif, un projet politique. Et la fonction employeur, tout ce qui va avec, la gestion des salariés, des fiches de paie, de l'URSSAF, enfin, tout ça qui est très compliqué, c'est quelque chose qui est inattendu. Et ils ont du mal à porter cette fonction employeur parce que ils sont pas formés souvent pour occuper cette fonction employeur. Ils ont pas forcément non plus le temps parce que c'est des bénévoles qui font ça après leur journée de travail parfois. C'est des gens aussi qui ils sont pas formés, mais ils sont pas aussi, ils ont pas cette expérience. Par exemple, il y a des employeurs bénévoles qui sont employeurs d'une association d'un secteur dans lequel ils n'ont pas travaillé, donc ils peuvent calquer aussi leur monde professionnel sur l'organisation du travail.
Voilà un extrait de l'émission donc de Mediapart discussion autour du livre Te plains pas, c'est pas l'usine, un super titre je trouve, l'exploitation en milieu associatif, édité par Lily Zalset et Stella Fine il y a déjà quelques années. Je voulais évidemment, ça me sert évidemment à arriver sur le dernier volet de mon invitation qui est la fonction employeuse des associations. On en a peu parlé en surface et j'en profite pour citer la troisième salariée de Studio F qu'on voit peu, notre comptable adorée Valérie, qui dit une association c'est super, une association employeuse c'est que des emmerdes. Je lui passe le bonjour. Est-ce que c'est vrai, je caricature évidemment, mais est-ce qu'il y a une vraie problématique qui émerge des associations employeuses, dont je crois que c'était assez clair dans le petit bout qu'on a entendu.
Juste pour remettre en perspective, donc le nombre d'associations employeuses, c'est vrai qu'on n'a pas dit, on est à environ 11% du nombre d'associations totales qui sont employeuses, entre 750 et 850, qui emploient dans le département environ 9000 salariés.
Donc 7000 emplois temps plein, c'est ce que je
disais. Oui, c'est ça, donc ça correspond à 9%, un peu plus de 9% de l'ensemble des emplois du secteur privé. Donc c'est pas rien. C'est déjà une...
Complètement pas négligeable. Hein.
Non, c'est pas négligeable.
Force de travail, voilà.
Et effectivement, la particularité des associations, c'est d'avoir donc des bénévoles qui sont en situation de gouvernance et qui ont ce rôle justement de gestion de l'emploi salarié avec toutes les difficultés que ça représente. D'un côté, d'être dans un engagement bénévole, de l'autre, d'être dans un emploi rémunéré, avec souvent quand même en arrière-plan, les salariés qui travaillent dans les associations ont souvent quand même des convictions et ont une volonté d'arriver dans ces associations avec les valeurs qu'elles portent en tout cas. Et parfois, ça se heurte justement cette position de salarié avec la différence de traitement qu'il peut y avoir entre justement les bénévoles qui vont s'engager sans leur temps personnel et ces salariés qui vont devoir, dans le meilleur des cas, donc respecter le droit du travail, mais souvent déborder et en faire plus par investissement aussi.
Vous confirmez, Jean-Claude, que...
Moi, au niveau, si je parle de la natation, donc nous, on a un éducateur qui est chez nous depuis... c'est un nageur du club, donc il a appris à nager au club, il a fait ses études, il a frappé la porte en 2002, jusqu'à 2002, moi je suis en 97, c'est vrai que les éducateurs qu'on avait pour l'apprentissage de la natation, c'était très compliqué de, déjà de les maintenir et de les garder ou y quitter des fois avant la fin de la saison. Et c'est le problème de tous les clubs dans le département, hein. Il y a des clubs, on a 6 clubs dans le département, et c'est le problème tous les ans de certains clubs, ou presque tous les ans. Donc nous on écoute beaucoup, je dis nos salariés parce que j'en ai d'autres dans d'autres associations, on les écoute, il y a des rendez-vous tous les ans, hein, il y a au moins 2 rendez-vous par an, on fait un point sportif, puis on fait un point sur les projets, sur tout un tas de choses qu'on peut mettre en place avec lui. Il faut qu'il y ait une confiance, hein, donc il y a une certaine complicité. Il faut aussi que le salarié, bon, il ait sa place de salarié, sa place d'éducateur, et que nous, on ait notre place. Donc nous, on est là pour diriger, on n'est pas éducateur. Mais on doit avoir le lien entre les deux, il faut qu'il y ait beaucoup de communication entre les deux, parce que lui, il a besoin de nous et nous, on a besoin de lui. Et il y a les parents au milieu de tout ça, et il y a les enfants. Donc il faut arriver à mettre tout ça en place. Donc certes, il y a des règlements intérieurs, il y a tout un tas de choses qui sont en place, mais bon, les règlements intérieurs, c'est vraiment quelque chose d'assez général. Et après, des fois, il y a du cas par cas, et des fois, on peut avoir des difficultés. On ne peut pas dire, je fais mes 4 heures ou mes 6 heures aujourd'hui, et à demain pour faire mes 4 heures. Ils sont forcément une demi-heure de plus. Il y a toujours ces petites choses-là en plus, heureusement.
Le financement et la gestion RH comptable, c'est une vraie problématique pour les conseils d'administration quand elles sont employeuses.
Ah bah oui, toutes les charges administratives qui sont liées à l'emploi.
On l'entend dans l'extrait, c'est pas leur métier, donc c'est souvent ça. Une charge de travail supplémentaire.
Donc dans les grosses associations avec de multiples salariés, hein, parce qu'il en existe notamment dans le secteur social, donc il y a souvent des directeurs qui ont cette charge justement de gérer les effectifs, le recrutement et tout de la gestion RH finalement. Dans la grande majorité des associations salariées, il y a 1, 2, 3 salariés maximum. Et donc oui, la charge se fait par les bénévoles. Et donc plus les dossiers sont complexes à faire, les déclarations, cette charge est complexe à faire, plus les bénévoles se sentent un peu démunis et donc ont besoin de soutien. Et ça, c'est aussi le rôle d'associations comme la Ligue de l'Enseignement de venir justement en soutien. Bon, il y a la Ligue de l'Enseignement, mais aussi le dispositif local d'accompagnement qui est géré par BGE au niveau du département et qui vont être là justement pour accompagner les associations employeuses parce que c'est pas quelque chose de simple. Loin de là.
C'est sûr, il faut suivre certaines formations. Donc nous, on s'appuie aussi sur des organismes au niveau des départements, hein, comme le CNOS, le conseil départemental, comme Profession Sport 41.
Le DLA et
donc,
le Studio Z.
Voilà, parce qu'ils nous aident beaucoup, hein, pour les fiches de paye, pour certaines déclarations, pour les conventions. On doit mettre des conventions en place. On doit être au courant de tout. Alors, il y a des fois, on découvre. Hein, ou des fois, c'est le salarié qui nous fait découvrir qu'il a le droit à quelque chose qu'on n'a pas mis en place. Donc, les conventions, des choses qui sont obligatoires. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas toujours au clair avec la loi. Donc, on apprend au fur et à mesure, hein, certaines choses. Pourtant, si on y est depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a des organismes quand même autour de nous qui nous aident beaucoup. Hein. Donc, c'est important. Par exemple, on a Accor Val-de-Loire aussi à Blois qui aide beaucoup sur tout ce qui est culture. Hein. Donc, nous, la compagnie Tout Direction, on passe par eux aujourd'hui. Hein, donc, heureusement qu'ils nous aident. Et financièrement, ce n'est pas des coûts très importants. Donc, parce que l'argent, c'est quand même aussi un peu le nerf de la guerre dans des associations sportives, hein, parce qu'on a des subventions, mais il faut que les cotisations, les subventions fassent le budget. Hein, faut tenir le budget sur un an. Hein.
On va terminer, cette émission est bien trop courte, malheureusement. On va terminer quand même sur une note plutôt positif, puisque 56, c'est une des dernières données de l'étude, 56% des associations questionnées se montrent confiantes, voire très confiantes. C'est une petite proportion, les très confiantes, mais voilà, la majeure partie des associations sollicitées sont donc plutôt confiantes dans l'avenir et dans la pérennité de leur association, contre donc 38% qui sont inquiètes et 4% qui sont très inquiètes. Donc malgré tout, il y a quand même une majorité d'associations qui ont bon espoir que leur activité perdure.
Alors, il y a une confiance et on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle soit là. Donc, on est plutôt.
Une bonne surprise.
C'est une bonne surprise.
Mais ça reste polarisé, ouais.
Après, en fonction des secteurs d'activité, en fonction. On a parlé des associations employeuses. Quand on regarde les associations employeuses, le résultat est plutôt mitigé.
Okay.
Donc, avec une petite majorité d'associations inquiètes. Mm-hmm. Quand même, employeuses inquiètes. Donc, ça dépend vraiment des secteurs et des structures. Mais globalement, c'est vrai, il faut le dire, et je pense que c'est important. Il y a une confiance qui a l'air d'être revenue. On parlait des adhérents tout à l'heure. La plupart des associations ont le sentiment que le nombre d'adhérents va reprendre le cours des choses et revenir à ce qu'il était il y a quelques années. Donc là-dessus, on est plutôt positif. Alors, il y a un élément négatif qu'il faut...
On le mentionne, on y va.
Il faut parler, c'est la recherche de bénévoles. C'est la difficulté, je mets un « la » avec des majuscules, la difficulté du monde associatif. Et donc, on peut aussi donc parler aux auditeurs. C'est les associations ont globalement besoin de bénévoles, de gens qui s'impliquent dedans. Et il va falloir trouver des solutions justement pour... permettre de pérenniser les associations sur le long terme, parce que c'est les bénévoles qui portent les associations, et sans bénévoles, tout le tissu associatif ne peut que péricliter. Donc c'est un message quand même à faire passer, les associations sont en recherche de bénévoles. Tout secteur, tout territoire confondu.
En permanence, et j'en profite évidemment donc pour saluer les miens de bénévoles, ceux et celles de Studio Zef et évidemment des autres associations, notamment ici représentées. Elles sont nombreuses entre la Ligue et les trois associations de Jean-Claude. Merci à tous les deux. Benoît Trulla, donc chargé d'études vie associative au sein de la Ligue de l'enseignement, et Jean-Claude Toutain, donc président d'un club sportif, d'un club de théâtre et d'un club de loisirs. Je ne les cite pas tous. On n'a plus le temps. Oui, Benoît. Et la disponibilité, l'accessibilité à l'étude.
C'est ça,
tout
c'est
à
exactement
fait.
Ce
on
que j'allais dire.
On avait dit en début d'émission et on ne l'a pas fait. C'est maintenant.
Donc, c'est sur le site internet de la Ligue de l'enseignement. Donc, vous pourrez mettre sans doute le lien sur...
Le lien sera mis dans le site sur l'article du podcast de cette émission.
Et donc, vous trouvez une infographie, une synthèse de l'étude et le rapport complet qui met en avant tous les éléments que j'ai pu évoquer.
Ils sont bénévoles à ZEF, justement le journal de bord d'un élu local, Nicolas Orgelet, Gaël Bernard et Christophe de la Roxette List sont à suivre sur Studio ZEF. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, c'est la fin de la lorgnette. On se retrouve très bientôt, salut à tous et à toutes, merci à vous deux.
Merci. Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 124 avec notre invité Marie Massard. C'est parti. Bonjour Nicolas. Nicolas, où est-ce qu'on est ?
On est aux journées d'été des écologistes à Tours.
Ouais, et c'est ici qu'on lance notre quatrième saison.
Eh oui.
Ouais. Alors, on a avec nous Marie Massa. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie, t'es adjointe en mairie, j'ai marqué ça.
Déléguée à la politique...
De Montpellier.
Hein ?
À la mairie de Montpellier.
À la mairie de Montpellier, j'ai oublié de le dire. Déléguée à la politique alimentaire et à l'agriculture urbaine.
Tout à fait.
Tout à fait. Et on reçoit également Gaëlle. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Gaëlle.
Gaëlle Giffard. C'est bien ça. T'es conseillère municipale déléguée à l'alimentation et à la restauration scolaire. Alors, j'ai la sensation qu'on a un thème là, au niveau de l'alimentation et de la restauration scolaire. Et
on en a une troisième qui est ici, qui va intervenir sur l'épisode suivant. Un troisième invité, Delphine, élue en charge de l'alimentation à Nantes.
Et Delphine, comment alors ?
Bonne amie.
Bonne amie.
Bonne amie. Voilà. D'accord. Bon, excuse-moi Delphine, on n'a pas eu le temps de se présenter. On y va du coup. Alors,
on est ici entouré d'élus en charge de l'alimentation qui sont des élus écologistes dans différentes villes de France. L'idée, c'est de faire un petit tour des initiatives qui peuvent être inspirantes. On va voir que ça résonne souvent avec des problématiques qui se posent aussi sur notre territoire et qui sont en fait un peu les mêmes partout. Et Marie Massard, la première fois que j'ai rencontré, c'était aux journées d'été des écologistes, et ça a été le lancement d'une boucle d'échange entre élus, entre pairs, qui nous permet en fait d'échanger sur nos problématiques tout au long de l'année et de s'entraider quand on a une problématique pour la résoudre, regarder ce qui se passe ailleurs. Et voilà, c'est aussi ça, être élu. Donc bravo Marie.
Merci.
Est-ce que tu veux nous dire un peu justement ce que toi, tu as pu porter dans ta ville, dont tu es fier et qui, d'après toi, donne un peu la couleur de ce que c'est que d'avoir une écologiste en charge de l'alimentation dans une ville ?
Alors, porter une politique écologiste, c'est avoir une vision globale et du coup permettre d'agir évidemment sur les causes environnementales, mais aussi les causes sociales, les causes de bien-être animal. Et j'agis de différentes manières, par la restauration scolaire avec un levier fort d'achat public où on peut augmenter la part de bio, de local, avoir une tarification sociale pour rendre accessible à toutes et tous. Je travaille aussi avec un collectif d'acteurs et d'associatifs et de chercheurs sur un projet d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Et là, on a en projet aussi quelque chose qui peut faire le lien entre les deux, de maison d'alimentation solidaire, c'est-à-dire un lieu qu'on a acheté. La ville de Montpellier a acheté une grande maison dans un quartier qui est en mixité sociale. L'objectif étant que les personnes puissent se retrouver dans ce lieu, un lieu de vie autour de l'alimentation, et puissent acheter des produits de qualité à des prix abordables. Donc lier encore une fois l'environnement et le social, et permettent aussi à des personnes de venir cuisiner sur place, des personnes qui par exemple n'auraient pas de cuisine, seraient à la rue, n'aient pas la possibilité de cuisiner, venir cuisiner collectivement avec des produits de qualité.
D'accord, bah, alors vous le savez peut-être pas, mais à Blois on est en train de monter un tiers-lieu dans les quartiers Vienne, on y réfléchit, mais nous c'est avec les Jardins de Cocagne, qui sont une association justement qui permet la réinsertion professionnelle par le maraîchage, et on développe de la vente directe pour redonner du sens avec des outils aussi pour apprendre à cuisiner aux personnes un peu loin de ces sujets-là, avec des tables de cocagne aussi pour pouvoir avoir des repas à 1 euro pour ces salariés parfois en précarité, et on est en train d'y travailler. Mais toi du coup, est-ce que tu peux nous raconter, parce que l'idée c'est de trouver des inspirations, à quoi ça va ressembler à l'intérieur, comment t'imagines que vont s'organiser les choses, et quel a été le déclic qui t'a dit que ça manquait dans ta vie?
Alors, le déclic, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de possibilité d'acheter une alimentation de qualité. Alors, il y a la difficulté financière pour les personnes, des personnes en situation de précarité, évidemment, et avec l'inflation, ça a augmenté ces dernières années. Mais il y a aussi des quartiers où on ne peut tout simplement pas, ce qu'on appelle dans des endroits des déserts alimentaires ou plutôt des bourbiers alimentaires, c'est-à-dire des endroits où on peut acheter à manger mais que des produits de mauvaise qualité, ouais, ultra transformés.
Voilà, je ne connaissais pas, bourbier alimentaire.
Bourbier alimentaire. Ah, donc l'idée, c'est de rendre accessible, d'avoir une alimentation de qualité. Dans cette maison d'alimentation solidaire, par exemple, il y aura une épicerie solidaire, des groupements d'achat et un restaurant avec différentes tarifications, un peu sur le modèle de la Mesa à Lyon, pour que des personnes en situation de précarité, mais aussi d'autres personnes qui ont les moyens, puissent manger ensemble avec chacun à ses moyens. Et du coup, ça va vraiment, pour le coup, changer la vie des gens, parce que dans ce quartier, ça n'existe pas. Et enfin, il y a quelque chose qui existe, mais où ils n'ont pas assez de place, une association qui s'appelle les Sperluettes qui a porté ça. Et l'idée, c'est qu'on a donné les clés de la maison. Moi, évidemment, j'imagine des choses parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Mais on leur a donné les clés de la maison pour organiser comme ils le souhaitaient. Donc, ils ont travaillé, ça fait 6 mois là, qu'ils travaillent en concertation avec les habitants du quartier pour savoir exactement de quoi ils ont besoin dans ce lieu. Nous, on va faire les travaux, mais en fonction des besoins qu'ils nous auront donnés. Par exemple, ils ont dit qu'il faudrait qu'il y ait un espace enfant, un espace adolescent, des choses comme ça. Et on va le concevoir avec les habitants.
Il y a une consultation déjà ?
Oui, il y a déjà une consultation qui a été lancée, à la fois avec les partenaires du quartier, partenaires associatifs, mais aussi l'école, la maison pour tous et directement les habitants du quartier.
Et vous avez des retours, des premiers éléments justement de cette consultation ?
Ah oui, alors déjà les personnes sont très contentes, sont ravies d'avoir ce lieu-là. Avec une petite crainte parce qu'ils ont déjà un lieu très petit, là ça va être très grand, donc il va falloir l'occuper, l'animer, mais ils sont vraiment très enthousiastes. Il y a une terrasse de 77 mètres carrés pour faire le restaurant, donc c'est vraiment, ils sont ravis.
Donc nous on en est à la consultation aussi, on concerte les associations, on concerte aussi bien social que différents maraîchers aussi qui pourraient travailler avec nous dans ce lieu. Mais un autre levier souvent quand on est élu de l'accessibilité pour tous à une alimentation de qualité, c'est la cantine publique, parce que voilà, on a les clés, c'est nous qui faisons manger tous les midis l'ensemble des enfants du primaire, et on a eu une politique de reprise en régie en société publique locale de notre cantine pour aller vers des produits de qualité à tarif accessible, on a un objectif de 100% bio et local en 2034. Donc on va commencer directement à 50%. Toi aussi, tu milites beaucoup et tu discutes beaucoup et tu débats beaucoup sur comment c'est possible, comment on rend ça possible. Est-ce que tu veux nous raconter un peu cette aventure de la remunicipalisation des cantines pour ces objectifs.
Alors nous, on est déjà en gestion directe, c'est-à-dire que c'est la ville de Montpellier qui a les agents, la cuisine centrale, donc qui gère en direct. Mais il y a un enjeu, évidemment, à augmenter la qualité, qui a un coût hein, pour la collectivité, d'augmenter la part de bio. Nous, ça a été la première année une augmentation de 500 000 euros sur le budget et 200 000 euros chaque année où je me bats pour augmenter le budget, mais tout en gardant des tarifs accessibles. Et nous, on a fait une réforme tarifaire aussi. C'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, les élus écologistes, on va beaucoup dans ce même sens, et on a baissé les tarifs pour les familles les plus en précarité. Donc pour 67% des familles, le tarif des cantines a baissé. Ça commence à 50 centimes, donc là, ça, pareil, ça a vraiment eu un accessible. Impact important pour les personnes. Donc c'est beaucoup plus accessible et avec des produits de grande qualité. On est aujourd'hui à Montpellier, par exemple, à 66% de produits bio et ou locaux. Et on augmente, on avait un objectif de 100% en 2026, mais c'est vrai que c'est difficile à atteindre parce que c'est tout un travail de structuration des filières. Ça prend du temps, c'est pas que l'aspect financier, mais c'est aussi trouver les producteurs qui sont en capacité de fournir.
Mais c'est aussi un soutien à l'organisation d'une agriculture de qualité sur notre territoire qui du coup va protéger notre environnement et assurer un revenu à des agriculteurs locaux. Ce travail-là de filière, c'est aussi un sujet pour les élus quand ils doivent faire leur lot, lancer leur marché public. C'est aussi quelque chose sur lequel tu travailles.
Oui. Là, ça demande beaucoup de travail. On a une politique d'allotissement très fin. On a 103 lots, donc ça veut dire c'est travailler en amont avec les producteurs, avec les agriculteurs, aller les rencontrer. Par exemple, si on fait du pois chiche, on va trouver des producteurs, mais il faut trouver aussi l'entreprise qui va pouvoir les transformer, les préparer avant que ça arrive dans les assiettes des enfants. Donc,
et c'est vous qui négociez ça?
Oui.
Ouais.
Ouais. Alors c'est les services essentiellement,
oui.
Mais c'est moi aussi en direct, je suis contactée en direct par des producteurs, donc c'est des mises en leur relation, du travail partenarial avec tous les acteurs du territoire.
Et là-dedans, il y a aussi les agents de la restauration collective qui retrouvent souvent du sens dans le travail, parce qu'ils vont devoir cuisiner plus, avoir moins de produits préparés, donc cuisiner plus, c'est aussi plus valorisant. Il y a aussi tout le travail des personnes qui servent les enfants, qui pourront leur expliquer les plats, c'est un vrai enjeu. Je sais que moi, par hasard, j'avais eu en covoiturage quelqu'un qui était dans nos services, que je ne connaissais pas, et qui m'a témoigné à quel point ça avait changé sa vie aussi dans le travail, en donnant du sens à son travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi chez vous?
Oui, c'est la partie la plus difficile, on va dire, les agents qui sont dans les écoles, parce qu'ils n'ont pas forcément la sensation d'avoir un rôle important, alors que pour moi, ils ont vraiment un rôle important. Donc quand je vais dans les écoles, je leur explique, mais on a 1300 agents, donc c'est un peu compliqué, beaucoup de turnover. Mais effectivement, ils perçoivent ce rôle-là. Eux-mêmes, ils mangent les produits de la cantine, donc ils voient bien. Moi, j'ai eu des témoignages très forts d'une ATSEM récemment qui m'a dit... Franchement, on a vu l'augmentation de la qualité des produits. Les repas sont très bons, enfin, sont vraiment de mieux en mieux. Donc on a ces retours positifs. Heureusement, ça fait plaisir.
J'invoque rapidement un dernier sujet. C'est la sécurité sociale de l'alimentation. À Blois, on a beaucoup travaillé sur comment on donne accès à des produits frais. On est parti d'abord sur les produits frais à des gens en grande précarité. Donc ce n'est pas vraiment une sécurité sociale d'alimentation. C'est plutôt comment on retransforme le modèle de l'aide alimentaire pour qu'ils soient en capacité de pouvoir acheter des produits à des agriculteurs bio, des produits bio et locaux, et d'avoir des bénéficiaires qui se sentent reconnus dans ce qu'ils sont, et pas avoir de la merde à manger, mais avoir de la qualité. Toi, tu travailles aussi sur cette question de sécurité sociale d'alimentation, mais ouais, beaucoup plus sur de manière différente. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu travailles sur cette SSA?
Oui, alors on a lancé l'expérimentation en 2023. C'est parti plutôt du secteur associatif et du secteur de recherche. Donc on a accompagné en tant que ville, on a fait partie de ce collectif de 25 structures qui a lancé l'expérimentation de sécurité sociale d'alimentation pour 400 personnes. Donc il permet à 400 personnes d'avoir 100 euros par mois à dépenser dans des lieux conventionnés qui sont identifiés comme étant qualitatifs, avec un comité citoyen de 61 personnes qui ont décidé toutes les règles d'en fonctionnement. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des retours très intéressants et les gens sont ravis de pouvoir aussi manger des produits de qualité, mais aussi pouvoir anticiper, savoir que tous les mois, ils ont cette somme-là. Pour eux, c'est extrêmement sécurisant.
Donc c'est un test à l'échelle d'un quartier pour l'instant?
À l'échelle de la métropole. On a pris un panel de 400 personnes à l'échelle de la métropole de Montpellier, avec une diversité de revenus et d'âge.
Ouais, c'est ça que j'allais demander, comment vous avez fait pour choisir
On a fait du tirage au sort, okay. Mais en essayant de respecter, d'avoir tous les âges et tous les revenus. Donc l'idée, c'est que ce ne soit pas discriminant. Quand les personnes viennent avec leur... On a créé une monnaie spécifique qui s'appelle la Mona. Quand ils viennent dans un magasin et qu'ils dépensent leur Mona, le commerçant ne sait pas si c'est quelqu'un de riche ou de pauvre. Donc voilà, ça c'est vraiment important.
Voilà, et donc c'est une question qui se pose pour nous aussi. C'est cette question de monnaie complémentaire parce qu'aujourd'hui on achète nos produits bruts bio et locaux avec des dons aux associations et aussi parce qu'on a eu des aides de l'État mais du coup des aides de l'État c'est pas quelque chose de durable, donc il faut qu'on construise quelque chose de différent. Et la question qu'on se pose c'est on a des chèques alimentation qui sont délivrés par le CIAS. Le CIAS c'est l'action sociale intercommunale. Et deux, comment on transforme ces chèques alimentation peut-être en un système de monnaie locale qui peut te permettre aussi, quand tu vas dans une épicerie sociale et solidaire, d'avoir des mixités publiques mélangées, c'est-à-dire que tu vas avoir des précaires qui vont acheter en monnaie locale, sauf qu'eux, ils auront un taux de change, si je peux dire, ou quand ils prennent pour 10 euros de monnaie locale, on leur en donne 20, l'équivalent de 20 euros, donc ils vont pouvoir acheter des produits à moitié prix, si tu veux. Alors que toi, tu vas pouvoir avoir une tarification solidaire, c'est-à-dire que tu vas acheter tes produits un peu plus cher et ça va financer. Mais dans le magasin, personne ne sait qui est précaire, qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est aussi des systèmes que les monnaies locales peuvent permettre pour de la mixité dans les épiceries sociales et solidaires.
C'est intéressant.
Voilà, donc si on veut en savoir plus sur tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut regarder un
Alors,
peu
vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, X, mais sinon, alors je ne vais pas vous envoyer sur le site internet parce qu'il est très peu fourni, mais après vous pouvez me contacter à la ville de Montpellier, je peux
Marie faire Massard. Des retours. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Marie, va prendre ton train.
Merci.
Merci.
Et on va continuer avec Gaël, parce que là on était sur une grande ville. Oui. C'est intéressant aussi de voir des villes de taille plus petite, nous on n'est pas métropole. Et puis aussi avec Nantes, parce que voilà, encore une autre manière de travailler sur les questions alimentaires.
Très bien, et merci beaucoup. Et puis donc à la prochaine, prochain épisode, on continue ça.
On continue. Session.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Tu t'appelles Nico.
Et tu t'appelles Gaël.
Tu es l'élu bavard.
Et toi, t'es le compère réalisateur.
Ouais, exactement. On est mi-mandat, Nicolas.
Déjà, 100 épisodes, c'est dingue.
Ouais, et si jamais vous vous posez des questions sur notre podcast, on a un hors-série qui s'appelle « C'est quoi journal de bord d'un élu local ?» Vous le trouverez entre l'épisode 79 et l'épisode 80.
Et puis, vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur toutes les plateformes.
Apple Podcasts.
Deezer, Spotify, tout ça, tout ça. Et on a un site internet dédié sur Ocha.
Et vous pouvez également nous trouver sur le site Blois Capital. Et on est aussi diffusé sur Studio ZEF.
Ah, j'ai tant de fréquences.
C'est sur 91.1 dans l'émission La Lorgnette.
Avec Thomas et Clémentine.
Ouais, c'est chaque jeudi à 17h.
Et on remercie aussi Julien Soula.
Pour le graphisme.
Et puis Clément Horry.
Pour la musique.
Elle est trop top.
Ouais, tout ça nous accompagne beaucoup. Et alors,
nous met de bonne humeur.
Merci à vous aussi d'écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, à les partager, à les commenter et à en parler autour de vous.
On se dit à tout de suite sur le prochain épisode.